Bonjour tout le monde et bienvenue à ce dernier balado-mersion de l'année. Bonjour Clara.
Allô Marie-Dominique.
Aujourd'hui, on a un format légèrement différent, ce sera en discussion. Donc.
C'est ça, ce mois-ci, c'est un mois un petit peu particulier. On n'a pas fait d'atelier, on a fait deux magnifiques pédagopauses, très riches en contenu en fait, qui auraient pu être des ateliers tellement ils étaient pleins de belles choses. Alors on va essayer de vous en rendre compte, mais ce qu'on a trouvé intéressant ce mois-ci, puis on est toujours en train d'expérimenter avec la balado-mersion, alors on s'est dit, allons-y carrément. Marie-Dominique a beaucoup plus d'avance que moi sur la connaissance de différents éléments du sujet qu'on traitait ce mois-ci. Alors, comme je passe mon temps à lui poser des questions et à l'embêter avec ce sujet-là, on s'est dit, on va le faire publiquement. Peut-être que quelqu'un d'autre s'identifiera à mes questions un peu niaiseuses.
Il n'y a pas de questions niaiseuses.
Et si vous aimez ce format, n'hésitez pas à le commenter sur LinkedIn, sur nos publications, parce que ça va peut-être nous permettre d'orienter nos formats vers des choses qui vous plaisent. Est-ce que tu veux d'abord nous parler un petit peu des deux super pédagopauses qu'on a eues?
Oui, absolument. En fait, la thématique du mois, c'était les expériences autochtones et le numérique. Et on a reçu pour les deux pédagopauses Tony Jenis, qui est conseiller à la réussite langue et culture pour le Conseil en éducation des Premières Nations. Donc, il est venu nous faire une première pédagopause sur l'accompagnement, non, sur accompagner les enseignants à accueillir les étudiants et étudiantes et à intégrer des contenus autochtones dans leur enseignement. Donc ça, c'était la semaine passée, le 10 décembre. Et cette semaine, le 17, il est venu nous parler de l'oralité comme alternative à l'examen traditionnel. On a eu des échanges vraiment riches. Ça a soulevé plusieurs questionnements, en fait, à tous les niveaux. Ça venait déconstruire un peu nos concepts de base.
C'est ça, tu utilises le mot déconstruire, puis je trouvais ça intéressant parce que une des personnes qui était là, l'une des pédagopauses, a vraiment employé ce mot pour parler de la différence entre l'éducation qu'elle a reçue et la manière dont elle s'est retrouvée à travailler au contact des personnes autochtones dans un de ses milieux d'emploi. Ceci étant dit, moi, il y a vraiment deux axes que j'ai vu dans les contenus qu'on a tous et toutes, mais surtout avec Tony, partagé ce mois-ci. D'un côté, il y a une question de sensibilité culturelle vraiment propre aux Premières Nations. Et d'un autre côté, il y a eu aussi toute une discussion à propos des méthodes alternatives d'évaluation et d'enseignement. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu que ça pouvait s'appliquer, ça pouvait avoir une place, puis des bienfaits aussi pour de très nombreux types de personnes différentes. Donc, je trouvais ça intéressant, ces deux aspects-là.
Oui, en fait, mais c'est vrai, parce que dans le fond, à force d'écouter les pédagopauses, puis aussi en faisant des liens avec les communautés de pratique dans lesquelles je suis dans les pannes de pédagogie, pratiques alternatives de notation, la pédagogie en plein air. Je trouvais que ça faisait vraiment que c'était tout interrelié, en fait. Mm-hmm. T'sais, on parle d'être sur le territoire, on parle de l'oralité dans tout ce qui est autochtone. Puis là, donc là, nécessairement, moi, je faisais un lien avec justement les pratiques alternatives de notation qui sont beaucoup plus propices à évaluer soit l'oralité ou même les segments à l'extérieur, donc soit sur le territoire ou dans la nature. Par les questions aussi qui ont été soulevées, je trouvais que ça faisait des liens, puis j'ai pas vu ça beaucoup encore, tous ces liens-là ensemble d'enseignement extérieur, d'oralité, notation alternative. Puis je me demandais comment que ça peut être fait à l'université ou au collégial, comment que ça peut être mis en pratique. T'sais, même Tony disait que dans leurs propres écoles, il y avait tout un processus de décolonisation, de retour aux enseignements, aux savoirs autochtones. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça?
Mais il y a plusieurs aspects que j'ai trouvés extrêmement intéressants. La première chose, donc, c'est pendant la première pédagopause, Tony nous a vraiment beaucoup parlé des particularités culturelles de l'enseignement et des savoirs dans les différentes nations autochtones. C'est sûr que il y a une difficulté sur laquelle Tony nous a averti, c'est l'importance de à la fois tenir compte de façon différente d'aborder les choses et en même temps de ne pas folkloriser. Et la première chose que j'ai trouvée intéressante dans cette première pédagopause, c'est qu'il nous a apporté beaucoup de ressources sur comment adapter notamment l'enseignement supérieur aux réalités autochtones. Mais l'idée, c'est de construire des ponts avec des formes, les formes des savoirs autochtones. D'autres savoirs, évidemment, aussi, mais de savoir que certains de nos étudiants sont des personnes autochtones, ont vécu l'histoire du Québec différemment des allochtones qui habitaient au Québec. Et comment faire des liens avec tout ça. Et en même temps, avec cette question de « Ok, mais quand on est comme zéro connaissant là-dessus, comment on aborde tout ça? »
Oui, c'était ta question aussi. Hein, d'où on part, puis comment on part pour essayer de traverser le pont, tu sais, de construire justement ce pont-là. Puis, donc, ta question était pertinente.
Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé la réponse de Tony qui m'a répondu, c'est peut-être plus une question de posture que de quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire, finalement, de sortir de cette posture de l'enseignant connaissant ou de la personne connaissante, puis d'adopter une posture d'humilité culturelle, puis d'arriver en disant, OK, j'ai pas toutes les réponses, mais je vous propose qu'on en parle ou qu'on y réfléchisse ensemble. Mais je veux dire, il y a une limite à ce qu'on peut apprendre en 3 jours. De toute façon, même si vous en appreniez beaucoup, 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 si vous n'êtes pas autochtone, vous allez arriver avec une posture allochtone. Quel que soit le niveau de connaissance qu'on ait, finalement, cette posture d'humilité culturelle, c'est un facteur gagnant pour arriver à créer ce que tu soulignais, c'est-à-dire des...
Bien, on parle d'humilité culturelle, mais d'humilité point. Je pense que c'est une posture qui est positive à avoir en classe aussi, de sortir de son rôle de supériorité et de personne enseignante, puis d'aller plus à la rencontre des personnes étudiantes, puis d'apprendre avec, comme en étant complémentaire et pas « je vous infuse mon savoir ».
Ceci dit, j'ai toujours vu parmi les personnes étudiantes des gens qui étaient très mal à l'aise d'être face à une personne enseignante qui ne se mettait pas en position de « OK, je sais, puis je vais vous enseigner ».
Je peux comprendre ce que tu veux dire. Puis aussi, ça fait un lien avec ce que Tony disait dans la pédagopause aujourd'hui, que pour les peuples autochtones, souvent, quand il y a quelqu'un qui parle, que ce soit, tu sais, surtout si c'est un aîné ou quelqu'un qui a un certain savoir, tu l'écoutes. Et tu ne parles pas et tu ne reposes pas des questions par la suite. Fait qu'il peut avoir un aspect culturel, il peut avoir un aspect aussi du fait que tout ce qui est alternatif, c'est pas là-dedans qu'on a grandi depuis toujours. Donc, c'est sûr que quand il y a quelque chose de différent, pour certaines personnes, ça peut venir les déranger dans leurs habitudes. Mais est-ce que c'est mal?
Non, je pense que c'est jamais une question de bien ou de mal. Je pense que c'est une question de... À partir du moment où on crée du changement dans... toute situation, il y a des attentes implicites. Je pense que beaucoup de gens sont formés avec l'idée, dont on n'est pas forcément conscient d'ailleurs, mais que si on répond aux demandes explicites et aux demandes implicites, on se place bien, on est au bon endroit. Puis je pense qu'une bonne partie de ce qu'on appelle la résistance au changement, c'est qu'on se retrouve à changer les règles en cours de route, c'est-à-dire que dans toutes nos institutions, dans toutes nos structures, il y a des règles implicites, il y a des attentes implicites, il y a des demandes implicites. Puis pour les gens qui maîtrisent ces règles-là, que ce soit à l'issue simplement de comment ils ont été élevés ou que ce soit à l'issue d'un travail d'adaptation très fort, je veux dire, il ne faut pas minimiser non plus qu'il y a des personnes qui n'ont pas grandi dans des milieux où tout le monde avait fait des études, qui viennent d'autres pays, puis qui ont fait énormément d'efforts pour s'adapter, puis comprendre les demandes implicites. Il peut aussi y avoir un sentiment qu'on change les règles du jeu en cours de route. C'est sûr qu'on veut changer les choses pour amener plus de justice, mais on se retrouve quand même à changer les règles en cours de route, puis il faut le dire, puis il faut aussi accepter que ça peut déstabiliser des gens.
Mais ça, tu as tout à fait raison. Puis le dire, le nommer, l'expliquer, puis tu sais, quand là, je veux parler de peut-être notation alternative, parce que c'est ce que je fais moi quand j'enseigne, mais c'est expliquer, c'est démontrer, d'accueillir les personnes qui pourraient le vivre différemment, puis c'est correct. C'est sûr qu'il faut, avoir cette ouverture-là aussi. Mm-hmm. Tu sais, on impose, on fait pas des changements en les imposant, en expliquant pas, puis en soutenant pas. Ça vient avec un soutien, ça vient avec des explications.
Mais je trouve ça intéressant parce que tu fais le lien avec les pratiques de notation alternative, puis je suis contente qu'on s'en aille là, parce que je suis à la fois très intéressée, puis en même temps, je pense que comme beaucoup de gens, je regarde ça quand même avec un petit peu de méfiance. Puis là, j'ai une Marie-Dominique qui est genre pleine de bienveillance, puis pleine d'enthousiasme qui m'en parle. Puis à chaque fois, je suis comme, ah, mais quand toi t'en parles, ça a l'air ben cool, puis ben une bonne approche. Fait que j'ai comme le goût de partager ma Marie-Dominique de bureau afin que tout le monde puisse bénéficier.
Mais je suis vraiment pas une... je suis pas une pro là-dedans. Là. Moi, j'imagine la chose, je suis dans la communauté
de pratique. Je pense que c'est moins d'être une pro que d'avoir le cœur là-dedans puis de l'amener avec beaucoup de bienveillance. Toi, tu l'amènes, t'amènes ça avec beaucoup de bienveillance. Puis moi, c'est ça que je trouve très positif, c'est que c'est pas genre... OK, là, tu sais, on doit jeter à la poubelle tout ce qu'on a fait. T'amènes ça avec beaucoup d'accueil des différentes postures qu'il peut y avoir autour de ça, puis des différents soucis aussi qu'il peut y avoir autour de ça, parce qu'on est toutes débordées dans notre travail. Fait que c'est un effort d'apprendre des nouvelles façons de noter, c'est un effort de les mettre en place, c'est un effort comme... Même vis-à-vis de... Je le vois vis-à-vis de l'IA, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à la charge de travail de... réajuster ses connaissances vis-à-vis, mettons, des méthodes d'évaluation quand on parle de l'IA. Puis les méthodes, les pratiques alternatives de notation, je pense qu'il y a un peu le même enjeu. Il y a cette idée de « Oh mon Dieu, c'est encore une nouvelle montagne à franchir pour réapprendre tout. »
Ouais, ben oui, parce que tu sais, on s'entend, là, je veux dire, on peut pas juste changer notre évaluation. Quand on change l'évaluation, ça fait que nécessairement, on doit changer. Il faut qu'on garde ça en tête, puis ça change la structure du cours nécessairement. C'est sûr que c'est un effort, puis ça prend du temps, mais on a tellement la réussite de la personne étudiante à cœur qu'on veut vraiment que la personne apprenne pour vrai, intègre la matière. On est prêt à la monter, tu sais, la montagne. Puis en fait, on la monte une fois, la montagne, puis on va remonter une petite montagne par la suite, puis les montagnes vont être de moins en moins grandes, tu sais, parce que c'est de le faire une première fois. On va s'adapter, puis on va remodifier, puis on va améliorer, mais c'est parce que fondamentalement, ce qu'on veut, c'est que la personne étudiante soit bien. Pour la plupart des gens, il y a plus de bénéfices aux pratiques alternatives de notation qu'à la notation traditionnelle. C'est le cœur qui nous dirige, mais c'est vrai que ça demande
du jus un peu.
Du jus, du travail.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de choses assez simples qui sont des pratiques de notation, puis de la philosophie, de la logique qu'il y a en arrière aussi?
Oui, sommairement, il y a trois grandes familles de pratiques alternatives de notation. Il y a la notation basée sur la maîtrise ou les standards, plus ou moins le degré d'atteinte des objectifs. C'est ça qui est noté plutôt que la performance aux évaluations, aux tests, etc. Il y a la notation par spécification ou par contrat. Donc ça, c'est plus une approche où il y a... c'est l'ensemble des productions qui sont... prédéfini, puis dans le fond, c'est satisfaisant ou c'est pas satisfaisant. T'sais.
Le système échec-réussite, genre?
Oui, genre. Mm. Puis, il y a la dénotation, okay, qui est une approche où la rétroaction qualitative est vraiment au cœur de l'évaluation. Il y a, dans la dénotation, il y a aussi de l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, puis où il y a le moins de travaux possible qui sont noté. Puis moi, pour ma part, je m'inscris davantage dans la dénotation. En fait, c'est tout basé sur les objectifs de formation. C'est toujours ça qui est au cœur. Quand je fais quelque chose, je retourne à c'est quoi mon objectif de formation pour voir si ça répond. Puis après ça, bien, c'est de donner la chance, plusieurs chances de se former, mm-hmm, là-dessus pour que la personne puisse se tromper, parce que c'est en se trompant qu'on apprend aussi. T'sais. Puis le principe, ouais, aussi, c'est de ne pas donner tout de suite des notes qui vont te suivre pendant toute ta session, tout ton parcours aussi.
C'est intéressant, je fais un lien entre ce que tu dis, puisque disait Tony ce matin, il disait, mais réfléchissez, souvent dans nos cours, ce qu'on va évaluer, c'est pas la compétence qui est notre objectif de formation, c'est la capacité de la personne étudiante à écrire, à démontrer par écrit cette compétence et non une démonstration de la compétence elle-même. Fait que, bien sûr, il y a certaines compétences qui impliquent la forme écrite, ouais, mais il y en a qui ne l'impliquent absolument pas. Puis, ce que tu nous soulignes, c'est que ce n'est pas une notation bonbon qui s'éloigne des compétences, c'est au contraire une notation qui vise les compétences, puis qui vise la maîtrise des compétences. Puis parfois, tu peux avoir un étudiant qui va être moins bon à expliquer ce qu'il fait à l'écrit, Mais c'est pas nécessaire qu'il le fasse.
Non. Puis, justement, une étudiante la semaine passée qui était comme, ouais, mais j'arrivais ça, puis je vais avoir des petites notes tout le temps pour savoir où je me situe. Mais des petites notes tout le temps sur plein de petites choses vont pas nécessairement démontrer ta compétence. Ça va démontrer que tu es capable de faire le petit travail, le petit exercice, là, mais dans l'ensemble, est-ce que tu es capable de comprendre? Est-ce que tu me dis, comment que tu vas me démontrer ta maîtrise, la compétence? Bien, c'est bien plus, moi, je pense, par ça, par une évaluation plus holistique de la matière. T'sais. Donc, ça fait en sorte que, dans mon point de vue, beaucoup trop de petites évaluations ne vont pas nécessairement démontrer ta maîtrise des compétences. Ça va démontrer que tu as écouté dans le cours et tu l'as appliqué tout de suite sur une feuille. Il faut que tu recraches quelque chose que tu n'as pas assimilé. C'est-tu vraiment représentatif de tes acquis, de ta maîtrise de l'objectif ou de la matière? Pas nécessairement. C'est aussi d'offrir la possibilité à tout le monde de prendre le temps de se tromper, puis d'apprendre de ça, puis de la développer pour vrai, sa compétence ou ses objectifs de formation.
Bien, j'aime beaucoup ce que tu dis. Puis Tony disait que c'est important de sortir du tout écrit, puis de recentrer certaines des choses qu'on fait, des évaluations, des réflexions, des travaux autour de l'oralité aussi. Lui soulignait notamment la place prépondérante de l'oralité chez les personnes autochtones, mais ceci étant dit, ça a suscité quelques questionnements quant au temps que ça pouvait prendre d'analyser ces évaluations. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
Je pense que d'analyser un texte à l'écrit va être aussi long que d'analyser un texte à l'oral. En fait, premièrement, ben, la grille va être la même parce qu'on s'entend que c'est les mêmes objectifs d'évaluation. Moi, à la limite, je trouve que c'est plus long à l'écrit parce que, surtout en communication, là, nous, mais on s'attarde beaucoup à toutes les fautes d'orthographe, toutes les erreurs, la structure de phrase. C'est très long. Mais si l'objectif de formation, la compétence à évaluer n'est pas d'être à l'écrit, mais plus la maîtrise d'une matière, ben, à l'oral, c'est bien moins long.
Mm-hmm.
Mais personnellement, moi, j'aime bien ça. Comme là, en ce moment, j'ai des travaux à l'écrit, j'ai des travaux à l'oral. Puis comme correctrice, my God, ça fait du bien d'avoir un peu de variété, de voir une vidéo, d'entendre un balado, puis de corriger un texte, de voir une présentation Genially ou PowerPoint. Donc, la variété des formats fait du bien aussi à la personne qui corrige. T'sais. Mais oui, après ça, est-ce que ça prend plus ou moins de temps? C'est variable, je pense.
Je vais te relancer sur la discussion qu'on avait tantôt. Parce que je suis peut-être très vieux jeu, là. Moi, je veux bien jouer le vieux crouton cette semaine. Mais tu sais, pour moi, quelqu'un qui sort d'un programme universitaire, j'attends que cette personne soit capable d'exprimer une pensée complexe articulée à l'écrit.
Oui.
Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui sort de génie, bon, on va peut-être lui demander moins de phrases complexes que quelqu'un qui sort de sciences humaines et sociales, mais il doit être minimalement capable de s'exprimer à l'écrit. Puis là, ça pose un enjeu qui est, ça fait peut-être pas partie des acquis explicitement visés par le programme, ça fait peut-être pas du tout partie des acquis visés par le cours, mais pour moi, je pense que tu dois te confronter pour apprendre. Tu dois te confronter à des choses. Puis si tu n'as pas à te confronter à des choses qui peut-être t'intimident, peut-être où t'es pas le meilleur, mais c'est pas en ne te confrontant pas que tu vas développer ces capacités-là.
Non, en effet. Bon, nous, en tant que petit individu qui enseignons, c'est difficile. Je pense qu'il faut vraiment penser le programme en fonction de quels cours sont donnés, c'est quoi les objectifs des différents cours pour que le programme s'assure que les compétences vont être acquises. Donc, ça implique de travailler ensemble et non en silo. Il faut savoir qu'est-ce que les autres font, puis comment qu'ils font. On a quand même notre liberté professionnelle, quand même, mais du moins que le programme soit fait en considérant les différents objectifs du programme. Si ça fait partie des objectifs de ton programme, tout ça, tu vas être confronté, nécessairement.
Puis je pense que en même temps qu'on vire à des systèmes d'acquis par compétences, c'est important qu'on valorise aussi le fait que s'il y a des choses qu'on considère indispensables, comme des acquis indispensables d'une formation universitaire, ils soient la responsabilité du programme. Et dans ce cas, je pense que, effectivement, les pratiques alternatives de notation sont une bénédiction dans la mesure où ça démultiplie les possibilités de la personne enseignante.
Mais c'est ça, je tiens quand même à dire que pour la notation alternative, j'y crois vraiment, mais je suis vraiment pas une spécialiste du sujet non plus. Tu sais, il y a vraiment des personnes qui s'y connaissent davantage que moi. Puis
ils
vont
c'est
venir...
bien d'initier le dialogue, puis tu sais, les spécialistes vont spécialiser, là.
Je sais que je détiens pas la vérité, puis je suis en exploration, comme la plupart des gens qui sont là-dedans, là, mais...
Ouais, mais en même temps, si les seules personnes qui s'intéressent, qui propagent ces idées-là, puis qui les soutiennent, sont des experts, c'est pas demain la veille que ça va s'imposer nulle part.
Non, c'est sûr. Mais je peux vous dire, en tout cas, qu'à notre rendez-vous CP, nous aurons un atelier sur les pratiques alternatives de notation.
Yeah!
Ah oui.
Et en 2026, qu'est-ce que tu nous as prévu, Marie-Dominique?
On va commencer l'année avec une thématique sur les pédagogies inclusives, le bien-être numérique. Donc, nous aurons le 14 janvier un atelier avec Mélissa Lorty sur la neurodiversité. Un atelier le 21 janvier avec Annick de Saint-Hilaire sur les capsules sur le bien-être numérique. Et Marie-Noël Marino qui portera également sur le bien-être en contexte éducatif. Alors, un grand merci, Clara, pour cette belle
session. Merci à toi. Merci pour tous tes beaux apprentissages.